Toujours en direct des Vignes Tonnerroises, qui, je vous rappelle, se déroulent jusqu'à ce soir 19h. Vous avez largement encore le temps de nous rendre visite et surtout de venir découvrir les différents viticulteurs qui sont présents pour cette journée exceptionnelle des Vignes Tonnerroises. J'ai le plaisir de recevoir Marion, qui est avec moi. Marion qui représente Ruche et Simple. C'est bien ça, Marion, bonjour.
Oui, tout à fait, bonjour.
Alors, Marion, Ruche et Simple, ça consiste à quoi ?
Ça consiste à une production de miel, un élevage d'abeilles et la culture des plantes aromatiques et médicinales.
Mais là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, parce que les abeilles, souvent, ils butinent les fleurs.
Tout à fait.
Donc après, vous ne pouvez plus les récupérer, ces fleurs ?
Je leur en emprunte quelques-unes.
Ah, quelques-unes. Non. Alors, est-ce que vous allez dire, vous exploitez vous-même toutes ces plantes ou vous allez les chercher à l'extérieur ?
Non, je les exploite moi-même. Cependant, je ne les exploite pas trop en ce moment. Je m'oriente beaucoup plus sur l'élevage d'abeilles et le miel.
Pourquoi ? Parce que c'est la saison, c'est le moment ?
Parce que j'ai eu un enfant il n'y a pas très longtemps et c'est de manière saisonnelle.
C'est ça.
Voilà. Du coup, je me consacre aux abeilles surtout et les plantes, je les ai mises un petit peu de côté pour le moment.
Alors, au niveau de ces abeilles, quelle est en ce moment la phase ? Est-ce que c'est la phase de butinage ?
En ce moment, on a un temps un peu gris et pluvieux, donc elles restent dans la ruche.
D'accord.
On a beaucoup de vent aussi, c'est un peu compliqué pour elles. Mais là, elles se sont réveillées de l'hiver, de l'hivernation. Elles n'hibernent pas, elles hivernent. Elles se sont réveillées depuis un mois et demi déjà, et elles ont un grand besoin de pollen, de nectar. Elles commencent à doubler de volume. Elles passent de 20 30 000 abeilles à plus de 60 000. Pour pouvoir récolter au maximum de nectar et de pollen.
Alors, ils vont chercher ce nectar à l'heure actuelle. Il y a le colza que j'ai vu qui est en fleurs.
Oui, on a des beaux champs jaunes magnifiques, mais on a aussi beaucoup d'arbres de petites fleurs de sous-bois. On a des Mont Sylvie, par exemple. On a le cornouiller mâle, qui fait des fleurs jaunes. On a tous les cerisiers, pommiers, poiriers. Les abeilles sont en train de travailler pour que l'on ait des fruits à manger.
Ah, aussi, oui, puisqu'en fin de compte, ils vont...
En allant chercher le nectar et le pollen, elles font la pollinisation. Et ça permet aux fruits de pouvoir se former.
De pouvoir se développer. On parle souvent de miel de printemps, de miel d'acacia, de miel... Ça consiste à quoi ? Est-ce que c'est selon, effectivement, les plantes où ils vont butiner ? Et puis surtout, le printemps, c'est par rapport à l'époque ?
Exactement. Le printemps, on le qualifie souvent de miel de printemps parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de fleurs de diversité. Donc, c'est compliqué de faire des miels monofloraux. On peut le faire sur le colza, effectivement. Sur les fleurs de cerisier, vers Jussy, il y a beaucoup de champs de cerisier. Il y a un miel de cerisier merveilleux que je ne fais pas parce que moi, je suis autour de Tonnerre, Tanlay, Saint-Martin, etc. Et on a des miels de tilleul, on a des miels de châtaignier. Tout ça, bien sûr, c'est en fonction des cycles de floraison des plantes.
Au niveau du goût du miel, il est vrai, moi j'ai l'occasion de déguster du miel, mais si on prend par exemple le miel de cerisier ou autre, on n'arrive pas à retrouver la saveur du fruit ou de la fleur.
Non, effectivement, ce n'est pas le même goût que l'odeur. On est dans des goûts totalement différents et qui vont varier d'une plante à l'autre. Les textures vont varier également. La couleur du miel va varier également. Il y a toutes les palettes possibles.
On voit souvent aussi des miels liquides et des miels beaucoup plus consistants. Ça vient d'où ?
Alors, ça vient, le miel est composé de minimum cinq sucres différents. Il n'y a bien sûr pas de saccharose, qui est le miel du sucre en lui-même. Il est principalement composé de glucose et de fructose. Ce sont les deux sucres les plus prédominants. Un miel qui va être très glucosé est un miel qui va cristalliser très rapidement. Un miel qui est très fructosé, comme un miel d'acacia, par exemple, lui va mettre beaucoup plus de temps à cristalliser.
Comment on le conserve, ce miel ?
Ouais,
la meilleure façon de le conserver.
Ce miel se conserve, on va dire, un peu comme un bon vin. Dans une cave, température constante, entre 12 et 14 degrés. Moins il y a de fluctuations de température, plus longtemps vous pouvez le garder.
Et il est vrai que si on le laisse à une température trop élevée, il a tendance à devenir liquide.
Exactement. La plupart des miels liquides que l'on va trouver dans le commerce, ce sont des miels qui ont été chauffés. Bien souvent, ils sont chauffés à très haute température. Et il faut savoir que dans le miel, pour que les abeilles puissent transformer le nectar des fleurs en miel, elles vont la sécher et elles vont surtout y mettre dedans leurs enzymes salivaires.
D'accord.
L'enzyme salivaire est détruite à partir de 40 degrés. Donc en chauffant un miel trop fort, on va altérer ses qualités organoleptiques.
Et au niveau santé, donc il y a moins de réactions au niveau de la santé, c'est-à-dire que le miel normalement apporte quelque chose de positif à la santé. Et là, en le chauffant, on élimine
tout ça. On garde le sucre, mais surtout en le chauffant, il y a, je vais dire un gros mot quelque part, l'hydroxyméthylfurfural.
D'accord.
C'est une molécule, c'est la dégradation des sucres présents dans le miel. On appelle ça HMF, qui se développe quand le miel est chauffé.
Moi, j'aurais voulu savoir, Marion, au niveau de la formation que vous avez effectuée pour arriver à votre stade, elle est longue cette formation ou vous êtes complètement autodidacte et vous vous êtes lancé comme ça du...
J'ai fait d'abord une première année avec un apiculteur professionnel qui est sur Auxerre, qui était sur Auxerre, Marc Guillemin, qui est décédé il y a peu de temps. Et j'ai eu la chance d'être avec lui, il a un amour de l'abeille passionnant. Et j'ai fait un BPREA au lycée Labrosse, au CFPPA, pour le centre pour adultes. Et suite à ça, j'ai fait l'école des hautes études apicoles, le HEA, qui a été développé par Arnaud Montebourg, mais qui s'est arrêté maintenant. J'ai été la première session, c'était une école merveilleuse. J'ai appris beaucoup de choses et rencontré énormément de professionnels importants dans le monde de l'apiculture.
Comment vous êtes arriver à exercer une telle profession, est-ce que étant enfant ou est-ce que vous avez déjà des parents qui pratiquaient la même activité ?
Absolument pas. Mon papa a toujours eu un amour des fleurs et un respect des abeilles, m'a appris à observer, à regarder. Et je suis maître-nageur de formation. J'ai été maître-nageur pendant 10 ans.
Ça nage aussi un peu les abeilles.
Ça nage pas du tout, au contraire. J'ai essayé de leur apprendre à nager un peu, mais non. Et un jour, je n'ai plus pu exercer mon métier. Et je me suis orientée vers la permaculture.
D'accord.
Et en m'intéressant à la permaculture, je me suis intéressée à la reproduction des fleurs pour arriver à avoir des légumes, des fruits, etc. J'ai étudié un peu les bourdons. J'ai étudié un peu les abeilles. Et je me suis dit qu'il fallait que j'ouvre une ruche. Mmh. Je suis allée voir Marc Guillemin. J'ai ouvert une ruche et je suis restée accrochée à la ruche, littéralement.
Également, vous cueillez des plantes aromatiques ?
Oui.
Et médicinales, c'est-à-dire que vous fabriquez des médicaments ?
Je ne fabrique pas des médicaments. J'essaye d'exploiter les propriétés des plantes afin d'en tirer tous leurs bénéfices.
Et ça, vous les avez en vente ?
Non, je ne les ai pas en vente. J'en garde quelques variétés dans mon jardin. J'en fais toujours, j'en pratique pour moi-même. Mais c'est, comme je vous ai dit, c'est la saisonnabilité. La saisonnalité. Oh, je ne trouve pas le mot, pardon.
C'est la mauvaise saison ou c'est la bonne saison ?
C'est la bonne saison en ce moment. J'ai mon amie, collègue Malvina qui fait les jardins de Vignon que vous avez eu ce matin. Elle fait ça également, mais ça lui prend un temps plein, complet. Et ça commence à partir de début mars jusqu'à fin août. Donc c'est le moment des abeilles. Et j'ai du mal à trouver le temps entre mes enfants, les abeilles et les plantes.
Dans quelle consommation est recommandé le miel ?
Toutes les consommations, je dirais. Il faut éviter le sucre, d'un point de vue général. Mais quitte à consommer du sucre, autant consommer du miel.
Pourquoi il est beaucoup plus rapide à...
Il est beaucoup plus lent à assimiler, au contraire. Le sucre est composé, le saccharose, le sucre de betterave ou de canne à sucre, a une molécule, le miel, a minimum 5 sucres différents.
D'accord.
Et de par la complexité de la chaîne moléculaire de ces sucres différents, le corps va mettre plus de temps à l'assimiler.
D'accord. Donc au niveau pour les diabètes, il vaut mieux recommander le miel que le sucre.
Pour les diabètes, il vaut mieux pas trop manger de sucre. Mmh. Et dans le doute, il vaut mieux manger du miel plutôt que du sucre.
Alors, parlons maintenant de la production des plantes. Dans quels critères vous travaillez les plantes ?
Comment ça, dans quels critères ?
C'est-à-dire, est-ce que vous faites des bouquets ?
Non, je fais des cueillettes sauvages, je les fais sécher.
D'accord.
Et je compose des tisanes.
Ah, les tisanes, on n'en a pas parlé de ces tisanes.
Je compose des tisanes. Alors moi, j'aime bien utiliser des plantes locales. Mmh. On peut partir sur l'aubépine, par exemple. En ce moment, là, ça va fleurir dans pas longtemps. On récolte les sommités fleuries de l'aubépine. Donc les bourgeons floraux avec les fleurs qui commencent à s'ouvrir et puis quelques feuilles. On les fait sécher et on les infuse en tisane, tout simplement. On peut faire pareil avec de l'ortie. On peut la manger, faire des superbes tartes aux orties. On peut faire aussi avec des pissenlits, on peut en faire des sirops, on peut faire tellement de choses avec tout ça. Il faut toujours bien prendre conscience qu'une plante peut être très toxique et peut ressembler beaucoup à une autre plante. Ça va être le moment de l'ail des ours.
Ouais.
Le muguet sort au même moment, la feuille se ressemble beaucoup. Ça n'a pas du tout le même goût, mais le muguet est extrêmement toxique et l'ail des ours est délicieux. Mais
Il faut le reconnaître. C'est un peu comme les champignons, il ne vaut mieux pas se tromper.
Exactement. Et il vaut mieux se renseigner bien et demander conseil à des personnes qui connaissent et avoir un bouquin avec soi. Le téléphone, c'est bien, mais un bouquin, c'est bien aussi.
Alors, ces plantes aromatiques donc, qui vont servir pour faire des tisanes, naturellement, il est conseillé de les consommer avec du miel.
Oui, ou bien d'éviter trop de sucre aussi. Ouais. Mais sinon, avec une cuillère de miel, c'est sympathique. Le miel de tilleul,
ouais.
Avec une infusion de tilleul. En plus, si ça vient du même arbre, sur Tanlin, il y a beaucoup de tilleul. On peut récolter la fleur de tilleul et mettre du miel de tilleul avec, qui va aromatiser ça. Le miel de tilleul est très aromatique, un petit peu mentholé, et il parfume merveilleusement les tisanes.
Autrement, à consommer avec modération, il ne s'agit pas de vider le pot, hein.
Non.
Non, il faut mieux éviter. Marion, vous êtes présent ici au Vinet-Tonnerroise. C'est la première année ou déjà vous avez
Non, ça fait, c'est la troisième fois que je suis là. Et c'est avec grand plaisir de retrouver les personnes que je ne vois pour certaines qu'une fois par an, ou bien les personnes locales aussi qui viennent me retrouver sur cet événement. Le cadre est merveilleux et l'organisation est très, très joyeuse.
Au niveau de vos produits, est-ce que vous les vendez uniquement dans des événements de ce style ou on peut également les découvrir chez vous si vous avez un laboratoire, une boutique?
Alors, moi, j'habite sur Tanlay et je viens de transférer mon atelier sur Dannemoine.
D'accord. Ah oui, c'est pas du tout à côté.
Oh, c'est pas très loin, c'est à 15 km.
Ah bon, ça va, alors j'ai rien dit.
Oui, on reste à proximité directe et je vends mon miel exclusivement de manière locale.
D'accord.
Il est à vendre au Leclerc, à Tonnerre, qui m'a installé un rucher. D'ailleurs, je fais le miel du Leclerc également. Il est à vendre à Proxy, à Ravière, au Gamme Vert. Il est à vendre surtout de manière locale. Je n'ai pas de boutique. Et on peut venir éventuellement à mon atelier pour découvrir le monde de l'apiculture. Je fais des petites formations en apiculture.
D'accord.
J'aime accueillir des groupes scolaires aussi, à faire découvrir le monde de l'abeille et la sensibilisation aux insectes et à la biodiversité.
Et ça, c'est quel jour, à quel moment?
Oh, c'est en fonction de la météo.
Aussi.
Et il faut m'appeler. Le mieux, c'est de m'appeler. J'ai une page Facebook, une page Instagram.
D'accord.
Et sinon, j'ai un numéro de téléphone à communiquer avec grand plaisir.
Alors, cette page Facebook, l'adresse, c'est...
Ça s'appelle Ruche Simple.
D'accord.
R-U-C-H-E-S, plus loin, simple, comme les plantes aromatiques et médicinales qui s'appellent les simples.
D'accord. Instagram, pareil?
Instagram, c'est pareil. C'est Ruche Simple.
Et site internet?
Non, je n'ai pas de site internet, mais... C'est un manque de temps, et de je dois avouer.
On ne peut pas tout faire. Hein.
On ne peut pas tout faire.
Un numéro de téléphone, si quelqu'un serait intéressé, que ce soit par les plantes ou par le miel?
Oui, 06 98 00 75 98.
Bien Marion, merci d'avoir participé à cette interview.
Merci à vous.
On vous souhaite bonne cueillette pour la suite.
Oui, bonne cueillette et bonne récolte pour les abeilles.
Merci à vous.
Merci à vous, au revoir.